France Culture.
Le futur n'est jamais pur. Nicolas Chemla. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Avec son précédent roman « L'abîme », le romancier Nicolas Chemla rendait un hommage violent et capiteux au luciférisme du Huysmans, à Kenneth Anger. Avec « L'ensorcelé », son nouvel opus, il développe une stratégie contraire, un homme marchant comme en montagne, seul, sous l'horizon compact d'un barrage de béton. Il délaisse alors l'infini des cimes et les méditations sur sa vie. Pour y pénétrer, s'engageant dans un boyau obscur, il connaîtra aux confins de ce conduit opaque une révélation plus noire que la nuit. En second temps d'émission, entretien signé Grégory Le Floch avec une autre sombre étoile de la nuit, le performeur orc gothique, chronique de Paloma Hermine Hidalgo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui vous souhaite, ma foi, un millésime 2026, le meilleur possible. Les choses commencent difficilement, mais néanmoins nous serons là tous les samedis pour vous faire partager nos goûts bizarres et nos mauvais penchants. En tout cas, bonne année à toutes et à tous. Bonne année, Nicolas Chemla.
Bonne année.
Vous souhaitez la bonne année souvent, beaucoup, vous aimez ça le...
Moyennement. Mais en 2026, je suis content parce que ça rime avec délice et avec supplice.
Voilà, très bien. Mais je vous reconnais bien là. Bienvenue. La précédente fois, vous étiez venu nous voir pour l'abîme, donc toujours aux éditions du Cherche Midi. Là, c'est l'ensorcelé sans E.
Oui.
Parce que évidemment, moi, j'ai eu au départ la tendance à l'écrire avec un E, en bon vieux lecteur de Barbey d'Aurevilly et
voilà.
Toutes ces histoires de Chouan. Et d'ensorcelé, mais là, c'est un ensorcelé et un personnage masculin dont on va voir en quoi il est ensorcelé et par quoi et comment il tente d'en sortir.
Oui, effectivement, j'avais envie de faire un clin d'œil à Barbey, qui est un auteur que j'admire depuis très jeune. Et donc, il y a quelques points de rencontre, mais c'est pas évident. Enfin, autant l'abîme était vraiment une redite, enfin pas une redite, une mise à jour, on va dire, de là-bas, de Huysmans, et c'était vraiment le programme, enfin, que je m'étais donné. Là, c'est plus un clin d'œil dans le titre. Les figures tutélaires de l'ensorcelé, c'est beaucoup plus Philippe Roth et Saül Bellow, qui sont des auteurs que j'ai découverts beaucoup plus tardivement, puisque Barbey, je vous dis, c'était vraiment genre, j'étais au collège, et Philippe Roth, j'ai commencé dans les années 2000, quoi.
Très bien, bienvenue à Mauvais genre, comme je souhaite la bienvenue et la bonne année à Grégory Le Floch. Comment va-t-il ?
Bonsoir, bonne année, très bien.
Alors, la dernière fois que nous fîmes équipe, avec un Z, c'était pour rencontrer Olivier de Sagazan, l'homme du limon fondamental et l'homme qui renaît de la boue des origines. Et là, vous nous amenez à quelqu'un de tout à fait différent, on ne va pas en dire trop, puisque c'est le début de l'émission, qui s'appelle Orc Gothique.
Différent, et en même temps, il se place dans une vraie filiation avec Sagazan. Ah. Alors, c'est une drag queen. Une drague horrifique, argentine, et on verra tout ce qu'il aura à nous dire.
Très bien, eh bien, bienvenue à Mauvais genre, de même que bienvenue à Paloma Hermine Hidalgo.
Merci cher François,
alors,
tous mes
voeux. Ce soir, tous mes voeux également. Ce soir, c'est un hommage à l'occasion d'un livre concernant quelqu'un qui est des icônes du mauvais genre, Zoé Lundt.
Eh oui, Zoé Lundt, on glissera vers un voyage rien de moins qu'astral, avec cette figure, cette muse incendiaire et créatrice à part entière, que nous dépeint Véronique Bergen.
Voilà, Zoé Lundt, on peut rappeler quand même son grand rôle chez Tarantino.
On peut aussi rappeler sa collaboration avec Abel Ferrara, l'ange de la vengeance, Bad Lieutenant. Voilà.
Absolument, et c'est à venir donc en fin d'émission. Mais avant cela, Laurent Polleret s'est évidemment confronté à l'ensorcelé, et voilà ce qu'il en advint.
Thank you.
Voilà, l'ensorcelé. Selon Laurent Polleret, on est plutôt dans le boyau fatal, dans le conduit, le tunnel ultime qui attend votre héros, Nicolas Chemla, à la fin du roman. Mais on va prendre les choses depuis le départ. Rappelons simplement que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui totalement recoupent les thématiques du mauvais genre. Satan et la mode, Lucifer, Monsieur Amérique et l'abîme, et puis avant Murnau. Donc vous avez une inspiration à la fois fantastique, érotique et gothique, mais dans l'abîme, je répète ce que j'ai déjà dit, c'est que c'est quelque part entre effectivement Huysmans et Le Locataire de Polanski. On est dans un lieu qui est un lieu pas fermé, mais qui est un lieu clos, qui est un lieu confiné, à l'intérieur duquel se passe toute une série de fantasmagories et de sortilèges. Là, au contraire, c'est un livre ouvert et c'est un livre qui prend la route, Nicolas Chemla.
Oui, il prend la route. On peut aussi considérer que c'est un livre encore plus fermé, parce que on est passé d'un immeuble à un tunnel, donc on reste dans des endroits, confinés et dans lesquels l'imagination peut s'emballer. Mais effectivement, c'est un tunnel auquel le héros arrive après plusieurs jours de route à moto. Voilà, pour démarrer une randonnée en montagne. En vrai, j'ai eu les deux idées. J'ai écrit les deux romans quasiment au même moment. Alors évidemment, j'ai beaucoup repris L'Ensorcelé depuis l'abîme, mais les deux idées me sont venues à peu près à la même époque. Donc, faut croire que j'étais dans une humeur un peu enfermé, on va dire. Voilà, j'avais besoin de me couper du monde et de ses agressions, en fait, et de son agitation. Je trouvais que le tunnel était donc il m'est vraiment arrivé, sans trop spoiler, hein, c'est le randonneur se rendant au point de départ de sa randonnée, la veille du départ, au pied d'un barrage, il cherche à rejoindre la couronne du barrage, qui est un endroit assez impressionnant, qui est 250 mètres de haut, se perd et finit par comprendre que pour arriver à la couronne du barrage, il faut prendre un tunnel, et donc il passe devant une porte qui est vraiment une porte urbaine, une porte industrielle, une porte comme on en trouve à l'entrée des parkings, qui est littéralement greffée à la roche. Donc déjà, il y a un côté un peu incongru, comme ça. Et il rentre dans ce tunnel, sans trop savoir combien de temps il va y rester, quelle est la durée de la traversée. Et ça va être l'occasion, effectivement, d'un retour sur soi, de la montée d'angoisse, et puis aussi d'une mise en parallèle de son existence d'un homme qui pensait tout avoir et avoir un peu atteint les sommets, entre guillemets, c'est le cas de le dire puisqu'on est en montagne, mais d'une réussite sociale, et se rendre compte en découvrant l'histoire de la construction du barrage, qui sont pour moi vraiment des œuvres d'art et un peu les dernières cathédrales de la civilisation occidentale moderne, quoi, hein. C'est vraiment la grande aventure une des grandes aventures du XXe siècle, sa construction des barrages et de barrages aussi gigantesques, se rendre compte, donc, notre marcheur, que finalement il vaut pas grand chose, et donc c'est un peu comme ça que c'est parti, enfin que l'idée m'est venue, et hasard de l'écriture, parce que je suis assez souvent rattrapé par l'esprit des lieux. Vous parliez de l'abîme. Au départ, j'ai eu une vision pour l'abîme d'un type enfermé dans son appart avec son chat qui devient fou parce qu'il se passe plein de choses. Et donc, je me suis inspiré de l'immeuble dans lequel j'habite, dans lequel effectivement il s'est passé pas mal de choses. Et au fil de l'écriture, j'ai découvert que cet immeuble était la plaque tournante de l'occultisme des années 1880 auquel a participé Huysmans par ailleurs. Et là, il s'est passé un peu la même chose. Ayant eu ce début d'idée d'un homme s'enfonçant dans un tunnel, dans une montagne, et confronté un peu à l'abîme, c'est le cas de le dire, j'ai découvert que cette vallée dans laquelle se trouve ce barrage et ce tunnel est le berceau de la chasse aux sorcières qui s'est emparée de l'Europe pendant 3 ou 4 siècles. entre grosso modo 14 et 18e siècle. Et c'est vraiment de là que c'est parti, avant même la rédaction du Malleus Maleficarum.
Il y a même des citations érudites. Donc tous les abîmes communiquent, l'abîme de la méchanceté, l'abîme de la découverte spirituelle, l'abîme montagnard, et puis l'abîme qui est à l'intérieur du barrage. Grégory Le Floch.
Moi j'aimerais revenir sur ce personnage qui est très fort physiquement déjà. Il y a un lien avec un de vos livres, Monsieur Amérique.
Oui.
Il a un physique de catcheur à la retraite.
Ouais.
Vous le qualifiez de Hercule, de montagne de géant, c'est une montagne de muscles.
Oui, j'ai pas dit montagne de muscles, mais oui. Mais
ça, c'est moi.
Je vois ce que vous voulez dire, ouais.
Mais ses muscles sont très importants parce que c'est un biker en cuir. Cuir est là pour mouler aussi.
Ouais. Avec une bedaine quand même. Je précise bien d'entrée de jeu qu'il est vraiment plus catcheur à la retraite que catcheur.
Et alors pourquoi un tel physique?
Bonne question. En fait, c'est un peu comme la montagne, en fait, ou c'est un peu comme c'est comme l'abîme, c'est comme l'immeuble dans lequel se déroule l'abîme. J'aime les endroits un peu bigger than life, quoi. J'avais besoin d'un personnage qui incarne vraiment, la force, l'esprit de conquête, et donc oui, d'une certaine manière, une vision assez traditionnelle de la virilité. Et en fait, je trouvais ça... Donc, je parlais tout à l'heure de Philippe Roth et de Saül Bellow, qui également, notamment Saül Bellow, hein, la plupart des personnages de Saül Bellow sont toujours des grands types très sportifs, très baraqués, débordants d'énergie et de pulsions vitales. Philippe Roth s'est un peu calmé par rapport à ça, mais il y a quand même une récurrence de personnages qui sont tous très très physiquement intenses et très pris par leur physicalité. Donc, c'était une forme de clin d'œil, mais c'était surtout narrativement, je trouve que ça rendait le... De la même manière que j'en ai fait une espèce de star de la fintech qui a vendu sa boîte pour quelques centaines de millions d'euros, ça rendait sa chute encore plus phénoménale.
Et ce corps est le symbole d'un monde d'avant.
Bah, d'un monde d'avant qui s'effondre. Enfin, c'est quand même, à nouveau, on va pas trop spoiler, mais il est rattrapé par son corps très très vite. Il s'imagine que ce tunnel, il va traverser en deux temps trois mouvements, et puis c'est pas le cas.
La plupart des autres motards s'étaient arrêtés avant la montée sur les aires de repos. La route était trop glissante et la visibilité trop mauvaise. Mais lui sentait une telle fusion avec sa machine et depuis si longtemps qu'il avait préféré continuer, se fiant à son instinct, son troisième œil, le cerveau en overdrive sous l'effet de la caféine italienne. La route, luisante comme une peau d'anguille, avait disparu derrière un coton soporeux, comme dans un songe. Et comme dans un songe, il volait dans le vide et tout était gris. Il surfait sur les nuages, il volait encore comme sur un griffon d'airain, jusqu'à frôler suspendu au-dessus de l'abîme les bords déchirés de la route invisible. Des roches noires et humides, aux lignes déchiquetées, qui faisaient comme des morsures à la marge d'une page arrachée au livre du monde. Il savait bien, lui, il l'avait lu, il savait bien que ce livre du monde était le livre de Satan. Puisque ce monde n'était pas le vrai, qu'il était la création factice d'un faux dieu. Et de là, de cette déchirure au bord du livre du monde, il devinait des gouffres sans fond d'où s'élevaient des nuées échappées des gorges des enfers. La route courait ainsi au bord du précipice, tandis que de l'autre côté, presque à la verticale, il apercevait furtivement, il lui fallait regarder devant lui, au gré des virages et du souffle toujours changeant, de la brume, des parois brunes et froissées, humides elles aussi comme des chairs à vif, nerveuses et fumantes, parois dont les hauteurs fuyaient dans cette même poisse incolore où flottaient parfois des nappes de lueurs blafardes.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, le personnage saisi dans le mouvement, c'est-à-dire en pleine ascension motorisée de la montagne. C'est quand même un personnage qui, au fil du roman, nous montre qu'il traverse et il épuise tout un tas de faux idéaux, de fausses vocations. Il va au bout de pratiques qui semblent ouvrir sur véritablement un accomplissement et qui n'ouvrent pas vraiment sur quelque chose. Il y a une espèce de grand exercice de déception en même temps. À la fois la puissance sociale, la puissance de l'argent, la puissance des corps, la puissance érotique, une espèce de même la puissance de l'espace, là, avec la moto, avec cette espèce d'accès au monde par la moto. Ouais. Et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ça n'aboutit pas.
Non, ça n'aboutit pas. Et effectivement, il est, enfin, il y a tout un passage d'ailleurs qui développe de manière assez, explicite cette idée d'une quête d'une identité qu'il n'arrive pas à saisir. Donc à nouveau, je pense que l'intérêt des romans, enfin en tout cas moi ce que j'aime, c'est de faire une espèce de miroir grossissant, enfin d'appliquer de regarder à la loupe l'expérience humaine. Et donc dans son cas, effectivement, il y a une succession d'incarnations ou de quêtes qui ne font que révéler l'impossibilité même de saisir qui on est. Là, l'extrait que vous avez lu, on parlait avant l'émission du cyborg. On est vraiment dans l'esthétique du cyborg et dans un rapport au monde qui est à soi, qui est celui de la fusion avec la machine. Et là, ça va encore plus loin puisque c'est une fusion avec l'environnement. Et puis, plus le roman avance et plus il se dépouille de toutes ces identités, enfin, ou de toutes ces quêtes.
C'est ça, c'est un peu comme l'oignon.
Ouais, c'est ça.
Couche
c'est
après comme... couche, le personnage.
Mais c'est pas nécessairement, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas nécessairement une question d'échec. C'est plus une question de, comme vous le disiez, d'inaboutissement, enfin, en tout cas, ou d'insatisfaction, non pas au sens consommatoire, mais de se rendre compte que la vérité n'est pas là. Et donc, tout le parcours de ce roman, ça va être, enfin, c'est une question d'ailleurs, puisque je ne crois pas au roman qui apporte des réponses. C'est est-ce qu'il faut se dépouiller de tout pour atteindre le ciel, enfin, ou en tout cas atteindre une forme de transcendance. Donc tout est là pour construire cette expérience, et notamment la montagne. Le passage que vous avez lu, d'entrée de jeu, je veux installer cette idée que la montagne est un lieu du très haut et du très bas, qui est un lieu enfin spectaculaire et en même temps on est vraiment dans la profondeur du temps, la profondeur du réel, mais la profondeur du temps, c'est-à-dire que c'est vraiment des couches de temps qui s'accumulent. Donc il y a la verticalité du temps, il y a l'épaisseur du réel, il y a quelque chose qui résiste à tout, qui est à la fois terrifiant et exaltant. Et donc c'est pour ça que, pour en revenir à la jeunesse du roman, quand je me suis trouvé dans ce lieu face à ce barrage, forcément j'ai eu une espèce de d'épiphanie, enfin en tout cas de révélation,
l'extase de l'éternel retour.
Voilà,
Nietzsche en haute engadine, brusquement la compréhension du monde,
et je me suis mis à genoux.
Ah bah, très bonne idée. Grégory Le Floch,
c'est très intéressant quand le personnage est confronté à ce barrage, parce que quand vous parlez du barrage, il y a de très belles pages. Moi, je pensais à la construction d'un roman. Vous expliquez que la construction d'un barrage, c'est un acte de foi qui nécessite une folie démiurge.
Ouais.
Et je pense que dans votre conception de la littérature, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Complètement. Complètement. Je crois que c'est Flaubert qui disait que le romancier est comme un dieu dans l'univers. Spoiler, le narrateur c'est Dieu. on le découvre à la fin, mais c'est pas grave. De toute façon, mes livres, on les lit pas pour connaître la fin, on les lit, je pense, pour l'expérience de lecture. Mais oui, enfin complètement. Je suis complètement. Alors je suis pas un geek passionné par les barrages. Je connais pas les détails. Je me suis un peu renseigné sur l'aventure du barrage de Mauvoisin et celui de la Grande Dissance qui a.
Le nom est lâché.
Ouais, il fallait pas.
Ah ben si, au contraire.
Et je trouve que, enfin, comme je le disais tout à l'heure, je crois, enfin, c'est vraiment pour moi des œuvres d'art, c'est des cathédrales, et dans lesquelles on retrouve, et c'est là que vous parliez du monde d'avant, et François de l'éternel retour, mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'aventure de la construction des barrages qui me paraît totalement enfin assez difficilement imaginable aujourd'hui, parce que ça demande un dépassement de soi collectif dont je suis pas certain que la société soit capable de la fournir de le fournir aujourd'hui, pardon.
Le tunnel demeure imperméable à ses invasions, la roche rétive à ses injonctions numériques. Ce bombardement permanent. Ici, il avance, lentement, lourdement, il se sent tellement fatigué. Dans un silence presque total, un silence qui est la matière même de l'air. Un souffle infime, juste en dessous du seuil de la perception humaine. Ça fait comme une vibration, quelque chose comme le bruit blanc qu'enregistrent les sondes endoscopiques au fond de nos entrailles et qui serait celui de la montagne. Et il se dit que la seule onde qui se propage ici est celle lente et immobile de l'explosion originelle, primordiale, qui déplace la roche à une échelle infinitésimale. La vibration subtile, la réverbération d'un processus initié bien avant l'ère des dinosaures, quand les falaises escarpées s'effondrent dans la mer peu profonde qui couvre alors cette région, peuplée de coraux, d'huîtres et d'oursins, qui se cimentent lentement les uns aux autres, dessinant ces veines de couleur sur le marbre bréchique depuis 200 millions d'années. Ça l'apaise un peu, un court instant. Quelle chance a-t-il, réalise-t-il, de pouvoir faire taire enfin le bourdonnement incessant des fréquences numériques, les radiations électromagnétiques, c'est l'air lui-même, partout ailleurs, tout le temps, qui est colonisé, chargé de milliards de gigabits de datas invisibles. Ici, rien que la roche et lui, lui et la montagne qui l'enveloppe et le soustrait au tumulte du monde, mais hélas, pas à celui qui remue son cerveau. Se demander d'ailleurs, Nicolas Chemla, si tout cela n'est pas nourri de votre expérience personnelle. Est-ce que professionnellement vous avez rencontré tous les gens qui sont mentionnés dans la com, dans le jeu vidéo, dans tout ça?
Oui, le jeu vidéo un peu moins, mais les algorithmes et tout, oui, pas mal. J'ai effectivement une longue carrière dans la com internationale, comme on dit. Et donc ça nourrit. Enfin, effectivement, c'est un univers tellement. Et relativement ignoré en plus hein, par la littérature, mais c'est un peu là que le monde se fait ou se détruit d'ailleurs. Donc oui, il y a de moi, mais après je pense que tous les romanciers mettent un peu de. J'aime bien brouiller les repères.
Grégory Le Floch, parce que c'est un autre aspect du livre de Nicolas Chemla, donc L'Ensorcelé, au Cherche Midi, c'est qu'il y a un aspect, je dirais, un homme contre, un homme qui réagit, qui est en conflit avec les idéologies du moment, avec les modes intellectuels, avec les comportements attitré, un personnage qui évidemment finit dans une espèce de solitude érémitique, tout seul à faire le biker solitaire qui traverse les montagnes, une sorte de mystique en quête à l'intérieur du boyau d'un barrage, mais tout cela est basé sur d'abord un premier refus frontal de toute cette espèce de justement de vibration, d'agitation du monde.
Oui, c'est un homme en colère. Qui a une haine. Tout y passe, l'écriture inclusive, des dérives woke, les tentatives pour ne plus voir Gauguin, Polanski, etc. Jusqu'au point où le narrateur va piquer des colères face à des vigiles dans des en entrant dans des immeubles qui lui demandent de vider son sac. Est-ce que le barrage? Parce que moi, je l'ai vu vraiment comme ça. Cet homme qui va se confronter à ce barrage qui contient des litres et des litres d'eau, ce serait pas une tentative de contenir cette haine? Et le tunnel, une façon de réfléchir, de passer en dessous, de comprendre d'où vient cette colère face au monde contemporain.
Nicolas Chemla.
Oui, c'est une manière de... Je ne l'avais pas forcément vu comme ça. La colère, elle est clairement là. Pour moi, c'est plus le tunnel qui est vraiment là. J'avoue que je n'avais pas tant réfléchi au barrage comme barrage face à l'idéologie, aux idéologies de la modernité. Mais c'est, ça me paraît effectivement... lecture valide et intéressante. Le tunnel, en revanche, oui, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette figure, enfin, qui est à la fois angoissante, inquiétante, et le barrage aussi. Enfin, moi, le barrage, je le voyais plus comme quelque chose d'à la fois très rassurant et bienfaisant, et en même temps très menaçant, parce que de fait, il y a derrière des hectolitres, des millions d'hectolitres d'eau qui peuvent à tout moment se déverser sur... Mais pour revenir à la colère, c'est pas forcément une colère contre le wokisme, ou c'est plus une colère contre l'époque dans son ensemble. Enfin, les vigiles sont pas nécessairement une manifestation du wokisme, bien au contraire, je crois, mais c'est plus la manière dont le monde entier se recouvre d'une couche de fausse réalité. Enfin, c'est d'ailleurs dans le passage que vous avez lu, François, tout à l'heure. Et c'est là que la montagne et le tunnel m'intéressent, c'est que c'est une forme de... Enfin, de fait, ça résiste. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment dans la montagne et dans le tunnel où plus rien de tout ça ne passe et on se retrouve vraiment... S'il reste peut-être une dernière expérience du réel, non colonisé par la prolifération des datas, de l'info, des écrans, de tout ça, c'est la montagne et le réel. Parce que de fait, c'est des endroits dans lesquels tout ça ne passe pas, et donc on se retrouve face à une espèce de brutalité de la réalité du monde, quoi.
Et reste aussi la littérature.
Ah oui, bah ça effectivement, c'est le moi j'envisage un peu mes romans comme des réponses à ça. Donc ouais, c'est une démonstration de, enfin, par la facture elle-même, quoi, de comment on peut encore espérer faire des choses qui échappent à cette modernité-là et à cette algorithmisation, cette numérisation du monde, quoi.
Avec quand même des quêtes à la fois verticales et horizontales. La quête verticale, c'est celle du biker. D'ailleurs, il y a la musique des années 70 a une grande importance.
Oui.
Et vous citez notamment le Born to be Wild de Steppenwolf.
Oui. Je cite aussi Katy Perry.
Voilà. Bon, ça, c'est
non,
autre chose.
Quand même.
Mais c'est moi biker. Oui. Donc, c'est l'hymne des Hells Angels. C'est justement une espèce de quête de l'horizon, comme ça, tout de cuir vêtu. Donc, et puis, il y a le plan final de Easy Rider, oui. Avec le We Blew It, c'est-à-dire cette espèce de, au moment de la mort des protagonistes, cette caméra qui brusquement tente une ascension vertigineuse. D'ailleurs, il y a tout le récit manière dont le plan a été tourné,
ouais.
Mais il y a quand même le désir d'un dépassement qui est là pour essayer de contrer cette espèce d'asservissement général.
Ouais, il y a l'idée aussi que tout ça s'est effondré. En fait, il y a un très bon documentaire en ce moment sur Arte sur le chanteur de Steppenwolf.
Qui s'appelait
Jay quelque chose, j'ai oublié. Mais on le retrouve facilement. C'est vraiment en ce moment sur la plateforme et qui montre bien à quel point, en même pas 10 ans, il reste plus qu'une parodie de tout ça. Et donc, moi, je trouve ça hyper émouvant de voir comment. Ce en quoi on a pu croire, ou les générations précédentes ont pu croire, et qui était
John Kay.
Voilà, John Kay. Qui était vraiment un idéal. Alors, Born to be Wild, voilà, il y a un idéal de libération totale par rapport aux contraintes de la société, de liberté, de jouissance. Le dernier plan d'Easy Rider et le film Easy Rider lui-même, c'est une espèce d'affirmation de l'indépendance dans la manière même dont le film est fait. Et c'est ça qui est bouleversant dans ce dernier plan, parce que aujourd'hui, en 2 clics sur votre téléphone, vous pouvez avoir un tel plan. Et aujourd'hui, et à l'époque, il a fallu se dépasser.
C'est le dépassement qui compte.
Oui, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en reste plus rien derrière, en fait.
Nicolas Chemla, L'Ensorcelé, donc à paraître aux éditions du Cherche Midi le 8 janvier. Donc, il faudra encore un peu patienter, mais laissez-vous ensorceler par Nicolas Chemelas. On vous garantit le voyage et les vertiges. Deuxième temps de Mauvais Genre ce soir avec un personnage assez fascinant, pourquoi assez, totalement fascinant, n'ayons pas peur des mots, Grégory Le Floch, qui répond au nom de scène de Orc Gothique.
Oui, Orc Gothique, on a essayé de l'interviewer plusieurs fois, ça a été très compliqué, de longs mois.
Déjà, il faut le capter, il faut l'attraper.
Voilà, c'est ça, parce qu'il est argentin.
Il y a des Argentins qui se laissent capter. Mais celui-là...
Extrêmement demandé. En réalité, il est extrêmement demandé, car très connu dans la scène underground. C'est un artiste drag, très connu dans le monde de l'horreur. Ses performances fascinent, il tourne dans le monde entier. C'est le roi de la prothèse. Et quand on l'a rencontré, il avait une sorte de prothèse avec lui, fait de matériaux qu'il trouve dans des poubelles, mais aussi de silicone. Il savait pas trop ce qu'il nous avait amené. On avait une chose entre les mains, il pouvait le mettre sur sa tête, sur son ventre.
Un côté mude alien assez sympathique.
C'est ça. Donc il se transforme en créature monstrueuse lors de performances électro. Et en se transformant, il interroge notre rapport à l'humanité, notre rapport à notre propre monstruosité. Ce qui était très intéressant, c'est que on était un peu étonnés, on avait un peu peur de presque de le rencontrer. Et on a vu quelqu'un de charmant.
Un fluet adolescent qui arrive à vélo, c'était pas le démon de la nuit, c'est pas une gargouille qui est venue se poser. Mais...
Il a 25 ans, charmant, intelligent, il se revendique de avec une filiation avec Sagazan. Et il a une vraie réflexion sur son art, c'est pas du tout quelque chose d'aléatoire et juste de sensationnel, c'est qu'il réfléchit en tant que philosophe.
Merci Grégory Le Floch. Parole maintenant à Orc Gothique.
Orc Gothique, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le nom de scène Orc Gothique ? Parce que orc, a priori, c'est le mammifère marin, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ?
Ok, thank you so much for inviting me. It sounded so interesting, so I wanted to do it. And yes, of course, I didn't bring like my full-on outfit and my mask because I like to distance myself from the creature that I create. I think it's only worth it in like special moments, and also like it doesn't have a voice truly, so I need that to experience myself through like the most conventional part of myself. And the name or...
Merci pour l'invitation. Je ne porte pas de masque aujourd'hui ni mon costume car je souhaitais prendre mes distances avec le personnage. Il n'a pas de voix et j'aimerais aussi utiliser le côté un peu plus personnel de moi-même. Le nom Orc Gothique vient de plusieurs facteurs. D'abord l'orque, l'animal. C'est une créature aussi mythologique et il y a le côté gothique. Donc les trois sont combinés ensemble, d'où le nom.
Vous avez créé une créature d'horreur drag, donc c'est à la fusion entre les drag queens qu'on connaît en France, c'est hyper populaire et mainstream depuis quelques années, et aussi le body horror. Vous avez mêlé les deux. J'aimerais savoir comment vous avez découvert cet univers et comment et pourquoi est né Orgothic, votre créature.
Well, I knew about drag way before I started like to think about myself as a, like a creature of like, this alternative kind of style, put it on me, because I mean I knew about it, but I wasn't interested about gender. Gender was not like something that made me wanted to explore myself in a way. I knew that I was gay, but I didn't like my looks.
Je connaissais le monde du drag, mais le genre n'a jamais été quelque chose qui me posait problème. Je ne souhaitais pas explorer cette partie. Je savais déjà que j'étais gay. J'ai découvert plusieurs artistes qui m'ont influencé, dont Olivier de Sagazan, par exemple. J'ai trouvé qu'il était intéressant de travailler sur l'image et de la transformer, d'aller au-delà de la nature humaine. J'aime aussi les films d'horreur, donc j'avais besoin d'être une créature, et j'ai trouvé intéressant de créer une image, de me créer un personnage de créature.
On dit que vous êtes le roi des prothèses faciales, ce qui fait que quand on voit Orgothic sur scène, c'est entre l'alien, l'insecte à la peau hyper sanguinolente, très effrayante, mais parce que vous recréez vraiment une sorte de corps différent de l'être humain. Je voulais savoir ce qui vous intéressait tant dans les prothèses et pourquoi vous les utilisez autant.
I think the prosthetics came my way by fate, and I just realized that I have to like use my resources in order like to create this fantasy. And sometimes like the trash or like elements that we will never.
C'est le destin. J'ai réalisé que je devais utiliser mes recherches, mes idées. Je suis du coup souvent vue comme anormale ou bizarre. Je cherche des prothèses pour avoir des différences de mouvement. Je veux prendre les distances avec mon humanité. Malgré ça, le cœur reste au centre. Je préserve le cœur et je suis donc un monstre avec un cœur.
Ma grande question quand on entend votre réponse, c'est et si vous n'aviez jamais créé la créature orgothique, qu'est-ce que vous seriez devenu aujourd'hui ?
I mean, since I was really young, I wanted to be a filmmaker, but I found myself like with not the right resources in order like, to achieve it. I did try while I was in my teenage years, like to create short films with friends, or tried my best to do so. But I found myself with a lot of challenges.
Si je n'avais pas été la créature orgothique, j'aurais voulu réaliser des films. J'ai essayé de le faire adolescent. J'ai eu une vie difficile. Je viens d'une ville, où l'art n'est pas apprécié. J'ai donc pris mes distances. J'ai voulu me créer mon propre univers. Voilà pourquoi, si je n'avais pas été la créature, j'aurais voulu produire des films, réaliser des films.
Et pourtant, j'ai lu dans une interview que quand vous étiez enfant, vous hésitiez entre deux voies, devenir pape ou devenir éboueur. Et je voulais savoir s'il y a un lien dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui entre ces deux voies.
I think I always found super glamorous the being celebrated as a pope, mostly visually. It has nothing to do with religion or the point of view, but I don't know, when I was a kid, I had that image in my mind. And of course, I cannot be like a pope in any way.
L'image du pape, pour moi, a toujours été une image très glamour, non pas par la religion ni par rapport au point de vue que cela pourrait représenter, mais simplement, c'était une image glamour. Je sais bien que je ne peux pas devenir pape. Quant à l'éboueur, c'est un métier qui est difficile. Je me sens peut-être trop faible pour le faire, mais j'ai trouvé ce travail toujours très intéressant. Je suis obsédée par les déchets. Bien entendu, je ne deviendrai jamais éboueur, mais ce sont deux métiers qui m'attirent.
Est-ce que vous pouvez nous parler des matériaux que vous utilisez pour créer vos tenues ? Parce qu'on a parlé des prothèses, mais je crois qu'il y a aussi le film plastique, etc. Et quand on voit l'effet général, on a du mal à identifier les matières.
Yeah, but basically, like I do use like saran wrap, plastic, like everything that I can I can graph that I can something that is really cheap and stuff, and also because I'm usually traveling, I have to restrict myself with.
J'utilise du film alimentaire, bien sûr, surtout des produits qui sont bon marché parce que je voyage, donc je dois me restreindre avec des produits qui vont être faciles à emporter partout en voyage avec moi. Donc film alimentaire, latex, j'aime fabriquer des tenues qui vont frapper les esprits.
En 2021, vous avez intégré le casting d'une émission américaine très connue là-bas, mais totalement inconnue en France, qui s'appelle The Bullet Brothers Dragula. C'est un peu l'équivalent horrifique de notre Drag Race en France. Chaque saison est une compétition entre 11 drags horrifiques, et vous êtes arrivé en finale dans la saison 5. Je voulais savoir quel souvenir vous gardez de l'émission.
My best memory about Dragula, like... I don't know, I have really striking images in my mind from that show, and they are mostly the winner of the show. I got second place, but the person that won, Nia Huru, X, she's like a contestant from China. And my best memories are like waiting backstage and just looking at her silhouette and the stuff that she presented. In a way, like, for me, it was so striking. I knew that I was there for defending myself and my craftsmanship. But I'm also, like, such a big fan of art. So being able to appreciate somebody that was also, like, bringing something so unique from her culture and also mixing up with all the her desires and her fantasies.
Le souvenir le plus marquant, c'est la personne qui a gagné, Nia Huru. Je suis arrivée second. Le souvenir le plus frappant, c'est d'être dans les coulisses et de la regarder parce qu'elle avait une robe de mariée dans le noir qui m'a frappée, sa silhouette aussi, donc je n'oublierai jamais. Je suis un fan d'art et on était là pour célébrer quelque chose d'unique. On s'est bien entendu, on avait de l'empathie. Nous étions les deux seuls étrangers puisque les autres candidats venaient des États-Unis. Donc oui, ce qui m'a marqué, c'est sa silhouette, sa robe de mariée.
Je crois que demain, vous êtes au point éphémère sur scène. Et sur scène, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, fort. Vous dévorez des choses, vous ouvrez votre ventre. Il y a quelque chose de l'ordre de la religion, du rituel, du macabre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe sur scène ?
I mean, to be fair, to be completely honest, I let myself go on stage. I have certain elements that I've been like building, and I always tend to change my music, my cues, because I'm always trying to have a new feeling or a response to the environment.
Je me laisse aller en général. J'ai quelques éléments qui sont prêts, mais j'aime changer un certain nombre de choses pour ne jamais refaire pareil, comme la musique. J'essaye de répondre à l'environnement, au moment présent. Si je peux transmettre des émotions, c'est important. Il y a des choses que je veux partager avec les gens, mais je ne sais pas par avance dans quelle direction cela va aller.
Et pour vous avoir déjà vu, moi, sur scène, en tout cas sur scène, c'était plutôt dans une cave, dans une boîte de nuit, dans la cave d'une boîte de nuit. Il n'y avait pas de scène, mais vous rampiez à travers la pièce, les gens vous observaient, il y avait une musique tonitruante. Est-ce que ça arrive que le public interagissent avec vous? Est-ce que il y a quelque chose de l'ordre de la chorégraphie qui s'organise avec le public, ou est-ce que vous n'êtes que à observer?
I like to be watched in a sense, but I don't like to be touched, or I like to be only in control of myself, and I also don't like touching people, mostly because if I'm in one of those performances, I will feel like deeply uncomfortable to be included.
Je n'interagis pas avec le public, je veux qu'on me regarde, je ne veux pas qu'on me touche, ni moi-même je ne veux toucher le public, je veux être en contrôle. Si c'était moi qui assistais aussi à une performance, je ne serais pas à l'aise de devoir interagir. Je veux qu'on me regarde, je veux que les gens prennent ce qu'ils veulent de ce moment, c'est un moment de partage, mais je ne souhaite pas effectivement qu'il me touche.
Vous êtes venu avec une partie d'un outfit et qui est très étrange. Est-ce que vous pourriez le décrire pour nous?
Yes, I basically brought like a prosthetic that I doesn't have an actual name or I can like describe it totally. It has been changed for many months. I actually think that I use it as part of my face during the field look.
Alors, c'est une prothèse qui n'a pas de nom. Elle a changé d'aspect ces derniers mois. Je l'ai utilisée dans l'émission Dragula. Il y a à la fois du glamour, de l'horreur, un peu de saleté. C'était pour le personnage de la limace. La couleur, la forme se transforme. Je ne la transforme pas moi-même, je n'y touche pas. Et à vrai dire, aujourd'hui, je ne saurais pas la refaire.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a reçu Olivier de Sagazan dans Mauvais Genre il y a quelques semaines, quelques mois. Et quand on voit sa vidéo où il se transforme, ça s'appelle Transfiguration, où il se recouvre le visage d'argile, etc. Il y a quelque chose de très mouvant, une créature qui se crée, qui se transforme. Et il y a un énorme point commun avec vous. À quel âge avez-vous rencontré l'univers d'Olivier de Sagazan et quel a été l'effet sur vous?
Okay, yeah, I was already like 19, I think so, and yeah, I found the video on YouTube, the Transfiguration one, and I was completely blown away by it. I never seen something like that, and I started following his work. I remember also like the name of this other person that inspired me is Lee Bowery. I don't know why I forgot it, but anyways, with Olivier, I started following his path and all of that. And
j'ai vu une vidéo sur YouTube. J'avais 19 ans. Je n'avais jamais vu ça avant. Ça m'a vraiment impressionné. À propos, j'ai retrouvé le nom de l'autre personne qui m'a influencé, Lee Bowery. Olivier de Sagazan utilise des matériaux très différents. Je le respecte pour ça. J'essaye moi-même de faire des choses différentes. Il m'a inspiré, mais je ne fais pas la même chose. Les gens peuvent le voir s'ils connaissent ce que nous faisons tous les deux. Nous avons des sujets en commun, l'absurde, le surréalisme. Donc, dans ce sens, je suis connectée avec lui.
Il y a aussi, je pense, une autre inspiration, c'est le cinéma. Il y a Cronenberg. Je crois que vous parlez du film Shivers. Il y a aussi le film Hellraiser. Et vous avez créé un tout petit court-métrage, je crois, où vous reprenez ce monstre Pinhead. Vous en faites une petite création. Est-ce que votre amour du cinéma pourrait nous amener à dire que vous êtes une créature cinématographique aujourd'hui?
Yeah, there's a character in Buenos Aires, actually in Argentinian culture, that it's called El Geniol, that it's based on like some pills for the headaches, and this creature that it actually has like skin tone and pins in. But it's actually like somebody that is going through pain, and it's an advertisement figure.
En fait, j'ai découvert un personnage à Buenos Aires qui souffre, en fait, et j'ai fait une performance sur le surréalisme et j'ai voulu m'inspirer de ce personnage, Rignol. C'est vrai que les gens, souvent, ça leur fait penser au personnage de Pinhead dans Hellraiser. Je trouve ça très flatteur, mais je ne veux pas leur ressembler, donc c'est plutôt une influence de ce fameux personnage que j'ai découvert en Argentine.
J'aimerais que vous définissiez peut-être un peu plus précisément votre style. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes lié au sadomasochisme? Est-ce que, aussi une question, est-ce que le public qui vient vous voir, c'est un public qui apprécie le monde SM?
I do think it has that's not the source of inspiration at all. I don't know that much about the subject. I think it's like a mix of like freak culture and prosthetic work in cinema, and I don't know, exploration of so many subjects, but I don't think sadomasochism, it's I I never try to hurt myself.
Ce n'est pas ma source d'inspiration, je ne connais pas ce sujet. Je suis plutôt inspirée par la culture freak, par l'utilisation du maquillage de cinéma, des prothèses de cinéma. Je ne veux pas me blesser, je ne veux pas blesser les autres. Ce sont des performances visuelles qui questionnent. Je n'aime pas la souffrance, ça ne m'attire pas. Mes tenues sont principalement inspirées par le gothique. Les gens, effectivement, l'associent peut-être au sadomaso, mais ce que je fais reste artificiel, il n'y a pas de souffrance.
Et pour finir, j'aimerais savoir à quoi ressemble une nuit dans la peau d'orgue gothique quand on passe une semaine à Paris.
I enjoy so much like creating the character and I actually don't know what it's gonna look like. I never know. I don't draw. I don't sketch anything beforehand. So it's always nice if I'm like with freaks like me, surrounded by freaks like me. Right now in Paris, I have two really good friends.
J'aime créer des personnages. Je ne sais jamais à l'avance ce que cela va devenir. Je ne dessine pas. J'aime être avec des gens qui sont comme moi, des freaks. À Paris, j'ai des amis qui sont comme moi et qui vont rester avec moi pendant les performances. Ce sont des amis du coup internationaux qui savent qui je suis à l'intérieur et qui m'encouragent à sortir la créature.
Merci beaucoup, Orgue Gothique.
Voilà, Orque Gothique, merci à Grégory Le Floch de nous avoir fait découvrir ce personnage qui a même fait peur à Nicolas Chemla.
Oui, effectivement, il est assez terrifiant, mais je pense qu'on peut le remercier maintenant que le diable a réussi à faire oublier à tout le monde qu'il avait pris possession du monde. Il nous rappelle que voilà, il y a encore quelque chose qui peut nous faire frissonner.
Merci Doc, et puis merci à la belle fillette d'avoir traduit les paroles de Orgue Gothique. Est-ce qu'on a des dates Orgue Gothique? Non, il n'y a pas de date de show de...
Pour le moment, j'ai rien vu.
Rien vu, ouais, mais rassurez-vous, on verra et on vous dira quand il reviendra en France. Chronique maintenant dans Mauvais Genre, on commence avec vous, Paloma Hermina Hidalgo et Zoé Lunt,
oui,
l'ange de la vengeance d'Abel Ferrara.
Effectivement, on suit un ange noir qui cavale droit dans le mythe et ne s'il pas. Zoé Lunt, donc, nymphe térébrante, mannequin, musicienne, écrivaine américaine, actrice et co-scénariste des films d'Abel Ferrara, l'ange de la vengeance ou Bad Lieutenant notamment, une icône moirée, un brûlé d'excès lucide, un corps glorieux qui s'attaque à lui-même pour mieux se transfigurer. Née en 62 à New York, morte en 99 à Paris, oui, Paris fin de trip et de transe, Zoé Lund a fait de ses maîtresses cocaïne et héroïne des techniques de soi. La came non pas esthétisée, mais pensée comme assaise à rebours. Poétesse, romancière, philosophe, Véronique Bergen lui consacre un livre d'une érotique souveraine. Hein. Trois poèmes de Zoé, traduits par Claroux et les éditions Lanskin, ponctuent ce voyage éponyme dans l'underground des nightclubs new-yorkais. Alors, l'écueil serait ici la pose glam trash ou le mausolée papier glacé? Mais Bergen s'en déjoue. Exit donc la biographie, place à une phénoménologie du geste. Hein, comment une vie, Zoé en grec, fabrique des formes. Et comment ces formes, en retour, torsadent nos binarismes. Morale, immorale, beauté, abjection, ascension, chute. Bergen reconduit ici Zoé, artiste à ce qu'elle produit. Une politique de la présence. Politique ? Oui. Notamment parce que l'addiction y est resituée dans la fabrique sociale des corps. Qui façonne quoi? Qui punit qui? Qui lorgne en pervers et qui détourne le regard? Poétiquement, le livre interroge une éthique de l'extrême. Qu'est-ce qu'un corps qui s'écrit contre lui-même? Et par lui-même? Alors, il y a du bataille hein, dans cette dépense sans retour, couleur sacrée noire, et puis aussi hein, des lignes de fuite arto-deleuzienne. Quelque chose de ce corps sans organes, pas si loin chez Zoé, des ectoplasmes et du voyage astral des spirites. Verdict? Un livre intense, tranche vive, au pouvoir d'allumage. Vous ne saurez pas tout de Zoé Lund, mais vous saurez mieux ce que son geste, aujourd'hui, opère en nous. Ce voyage n'absou, ni n'accable. Bergen ici tient la ligne de crête. Lucidité sans voyeurisme, fascination sans fétichisme. Pas d'idolâtrie fanzine, non, pas de glamour fossile, mais bien plutôt un laboratoire de hantise qui rend Zoé Lund créature et créatrice à sa puissance d'invention. Voyage avec Zoé Lund, Véronique Bergen, édition Lanskin. Prenez, lisez et laissez la flamme faire son travail.
Merci Paloma, laboratoire des hantises, c'est tout à fait vous Nicolas Chemla.
Oui. Ferrara, j'adore. L'enjeu de la vengeance, chef-d'œuvre inoubliable.
Film extraordinaire. Extraordinaire. Une recommandation de Grégory Le Floch.
Oui, moi je voulais absolument parler de Princesse, un roman de Kinga Wierzykowska qui va bientôt sortir en collection Cadre Rouge au Seuil la semaine prochaine. Parce que moi, lire ce livre, ça m'a donné l'impression d'être en roue arrière sur l'autoroute à plus de 200 km/h. Ça va vite, c'est ébouriffant, on est emmené sur des territoires dont on n'imaginait pas l'existence. Tout commence par des à-coups violents, un morceau de doigt, retrouvé dans une barquette de jambon sous vide, les déboires de la PDG d'une entreprise de charcuterie, et puis une fille gouailleuse qui offre un lapin à son amie Barbara Lys pour son anniversaire. L'histoire se concentre sur cette Barbara Lys, une fuite d'eau, un plombier polonais, c'est le mariage, et contre toute attente, le couple déménage, retour au pays natal, un village de l'est de la Pologne. Là, le roman de Kinga Wierzykowska devient inquiétant. Le lapin grandit de façon surprenante, Barbara s'y attache, plus que de raison, tandis que le voisinage hyper catholique attend que Barbara, en bonne épouse, donne naissance à un enfant. Mais rien ne se passe, et toujours ce lapin qui grandit, 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 devient géant et change de sexe. La suite du roman brise toutes les attentes, je n'en dévoilerai pas tout, mais ce que je peux dire c'est que la religion est malmenée, Donald Trump intervient, le lapin donne naissance à des êtres difformes et toute la planète finit par scruter la villa polonaise de Barbara.
C'est aux éditions du Seuil.
Du Seuil.
Toute précision à retrouver sur notre page France Culture. Véronique Bergen, Zoé Lund, c'est aux éditions Lanskin. Et Nicolas Chemla, L'Ensorcelé, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Et le livre sort en librairie le 8 janvier. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Alexandre Dang. Et j'en profite pour souhaiter une belle année 2026 à tous les virtuoses de la console qui nous accompagnent. Accompagne de toute la saison Mauvais Genre, donc bonne année à tous, à toutes, donc jusqu'à la fin au moins de ce millésime 2026. Claire Poinsignon, Paloma Hermina Hidalgo, Claire Martin Dugard, Grégory Le Floch et François Joulier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. Rendez-vous samedi prochain avec François Ducose pour son formidable livre sur les détectives des ténèbres aux éditions Le Visage Vert.